Bonjour les amis, bienvenue dans l'épisode 6 du podcast Light. Je suis comme toujours, comme tous les dimanches, très ravi de vous parler tout seul dans ma chambre. C'est vraiment un plaisir et j'aime beaucoup l'exercice parce que ça m'oblige à avoir dans mon quotidien une certaine régularité, quelque chose avec lequel j'ai un petit peu de mal. Ou en tout cas, ça dépend des périodes. Comme j'aime le dire, le chaos nourrit et l'ordre construit. Et en ce moment, je suis dans une phase de ma vie où j'oscille pas mal entre les deux et j'arrive plus ou moins à le faire. Mais en tout cas, les podcasts, c'est ce moment où ça me rappelle qu'il faut un petit peu d'ordre, il faut construire des choses. Et donc, c'est plutôt cool. Alors, pour ceux qui me découvrent avec ce podcast, juste avant, j'y pense. Je suis désolé, je crois que j'ai fait un truc bizarre sur le son du dernier podcast. En fait, il y a un mec qui écoute probablement ce podcast, un ingé son qui m'a dit « Ouais, il faudrait que tu mettes machin, machin. » Donc j'ai essayé, mais je l'ai fait bizarrement, je crois. Donc ça donnait un son pas terrible. Je crois que... Enfin, je vais voir pour celui-là comment je vais me débrouiller, mais bref, ça devrait être résolu. Donc navré, j'ai vu que vous aviez quand même été plus de 1000 à l'écouter. Donc merci beaucoup. Pour rappel, donc Light, c'est quoi? C'est un podcast non pas pour les gens qui veulent plus dans la vie, mais qui veulent mieux. Et chaque semaine, je vous partage les découvertes, les idées, les expériences un peu qui m'ont marqué et qui ont pour but de vous être aussi utiles. On est, comme l'a dit Atticus, des graines. Et donc, le but, c'est qu'on fleurisse. Quelle que soit la graine que tu aies, fleuris. C'est pourquoi dans ce podcast, je vous pousse à fleurir en tant qu'être humain. Je vous pousse à développer des trucs, en passant notamment par les idées, mais pas que. C'est très important pour moi d'aller vers cette voie ascendante qui est belle par essence, mais difficile par nécessité, comme le dirait mon bon ami Pierre Dufraisse. Donc, allons-y, continuons à essayer de nous développer en tant qu'être humain, peu importe la manière dont c'est fait. Et je pense que c'est un des chemins d'épanouissement qui est peut-être le plus beau dans la vie. Bref, on attaque tout de suite avec, comme à notre habitude, le plan de la semaine. Mais avant ça, je ne l'oublie pas, cette semaine, je vous énonce les 5 grandes idées. Pour commencer, je vous parlerai de l'arnaque du biohacking. Ensuite, comment avoir le réseau de Tarantino. En 3, on verra mes 3 leçons sur le fait d'avoir mangé dans un resto 3 étoiles, parce qu'on apprend des choses, mine de rien. En 4, on parlera du paradoxe de Fredkin. Et en 5, on parlera de cultiver son unfair advantage, une notion dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mais j'essaierai de l'attaquer sous un autre axe. On est parti donc pour le plan de semaine, je vous invite à faire la même chose, à faire un petit récap de ce qui s'est passé pour vous durant cette semaine. Et on commence tout de suite avec ce qu'on appelle la down list. Donc, qu'est-ce qu'on a accompli? Pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu de gratitude? Pour ma part, rien ne s'est passé vraiment comme prévu. De base, j'avais prévu de faire 4 séances de muscu. J'en ai fait que 2, 3, on va dire. Enfin, là, je viens d'en faire une, mais elle a duré 15 minutes et j'ai juste fait 5 séries de pompes, traction, squat, voilà. Un peu au point de corps, un peu à l'arrache. Mais c'est aussi parce que ce matin, j'ai couru 12 km. J'ai fait un bon running, donc ça, c'est cool. Ensuite, je suis parti sur Paris de mardi à samedi. Et donc, j'ai beaucoup marché. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi à tenir la cadence sur le programme de sport que je m'étais fixé. Ça, c'est un... Et j'en parlerai après, mais un point d'amélioration vraiment de mon côté qui est la résilience et la flexibilité. C'est cool d'être capable de tenir des choses dans un quotidien qui est assez linéaire, mais le problème, c'est que quand ça change et la vie change et fait qu'il y a beaucoup de volatilité, de choses qui sont imprévues, etc., on se retrouve pour beaucoup un petit peu perdu. On ne sait pas vraiment quoi faire. Et on n'arrive pas à s'adapter. Donc ça, c'est un truc sur lequel j'ai envie de travailler parce que il suffit que je change d'endroit, que j'ai plus ma caméra pour plus réussir à faire de vidéos et c'est dommage. Donc vraiment, je veux travailler sur ça. Ensuite, sur la down list, en passant vite fait, j'ai rencontré des gens extraordinaires, notamment un gars qui s'appelle François, qui a un réseau de malades sur Paname, qui a passé 40 jours dans une grotte avec Thomas Pesquet. Bref, je crois que vous en aviez parlé. Mais ce gars est incroyable, vraiment incroyable. Je sais pas comment j'ai pu avoir son contact et passer autant de temps, mais bref, coup de bol, on va dire. Et ce qui est trop cool, c'est qu'en plus on échange et qui pourrait normalement m'aider sur mes prochaines vidéos parce que, comme je vous l'ai déjà dit, j'aimerais aller plus vers l'expérimentation, faire des choses, etc. Donc lui, il a des contacts intéressants pour ça. J'ai fait aussi une soirée d'entrepreneurs, donc ça c'était génial. Vendredi soir, on a rencontré du beau monde. Petit resto 3 étoiles et Palace avec mon poteau Jean qui m'a bien régalé, on va pas se le cacher. Ça, c'était une folie. Franchement, je vous invite tous hein, un jour à faire un resto 3 étoiles parce que c'est une expérience qui est insane. Vraiment, c'est insane et surtout avec des gens que vous kiffez. Ensuite, on a eu un event YouTube. J'ai fait une tea party avec Théo Audace. C'est un gars qui fait des pranks, sûrement certains d'entre vous connaissent. Enfin bref, il y avait plein de gens, plein de créateurs aussi, trop stylé. Et ça, c'est l'avantage hein, de Paname, hein, c'est que vraiment, il y a une densité de talent, une concentration de personnes intéressantes qui est très très bon. J'ai posté 4 vidéos courtes et on a fait un peu plus de 2 millions de vues, ce qui n'est pas trop mal. Le podcast, j'ai lu 3 heures et bref, etc. Donc les améliorations, je vous en ai déjà parlé et c'est tout. Les KPI, au niveau du temps d'écran, on est à 2h26 avec 2h30 d'Insta cette semaine et 2h16 de YouTube. On a un petit peu augmenté par rapport à la semaine dernière, je crois que j'étais à 1h46 avec 1h30 d'Insta seulement. Faute à quoi ? Faute bah, que j'ai eu besoin du code, c'était quand vendredi, parce que en fait, le blème avec le système que j'ai mis en place là sur mon tel, c'est que dès que j'installe une nouvelle appli, elle est automatiquement bloquée. Et donc, comme j'étais à Paris et que j'avais envie de faire un petit peu de vélo, j'ai installé Lime. Et le problème, c'est que je ne pouvais pas l'utiliser. Donc au bout d'un moment, j'en ai marre et j'ai demandé le code à ma mère. Elle me l'a envoyé et résultat, bon, j'ai pris pas mal le train, je me faisais un peu chier, donc j'ai regardé des trucs quoi. Mais bon, ça va. Franchement, ça va encore. Ça reste très correct. J'ai fait un petit peu de journaling, mais bon, ça, je pense qu'on va passer. Et on revient donc sur la stratégie, sur les objectifs qui sont un peu les mêmes que la semaine dernière. Hein. Je ne sais plus qui dit ça, mais c'est Ramosi sûrement, comme quoi bah, ce qui compte, c'est juste d'être capable de répéter, de répéter, de répéter les trucs. Et c'est comme ça que ça finit par marcher, à partir du moment où on itère et on ne répète pas. Mais bref, faire 5 vidéos courtes, lire un livre plus le résumé, poster une vidéo sur YouTube, faire un podcast et 6 séances de sport. C'est un peu les grandes lignes avec des objectifs un peu plus gros sous-jacents. Bref, c'est tout de mon côté pour le plan de semaine. J'espère que pour vous aussi, c'est clair. Je trouve que mon plan de semaine, il est bien, mais le problème, c'est par rapport aux objectifs, le fait que ça se répète tout le temps et que, en fait, toute la semaine, je n'ai pas. C'est pas un truc qui occupe mon esprit. Je le note le dimanche soir et puis je le redécouvre le dimanche et je suis en mode ah, est-ce que j'avais fait ça ou pas ? Et ça, c'est dommage. Je sais pas comment je pourrais l'améliorer. À un moment, je mettais en fond d'écran sur mon tel. C'était pas mal. Peut-être que je pourrais refaire ça. Et d'ailleurs, je pense à ça aussi. Je vais le noter tout de suite. C'est de remettre un code hein, sur mon tel. Parce que bon, bah voilà, maintenant je le connais. C'était 1907. Donc il faut le changer. Donc ça, c'est les deux tâches que je note tout de suite. C'est peut-être, je vais réessayer ce truc fond d'écran des objectifs qu'on peut mettre sur notre téléphone. Parce qu'on voit quand même assez souvent. Et code téléphone. Vraiment, ça, c'est un truc de fou, hein, mais je le vois à chaque fois, dès que j'enlève le code, et que, bon, bah voilà, comme j'étais sur Paris, mes cycles de sommeil ont changé, donc un peu plus de facilité à être, on va dire, émotif, aller vers la facilité, machin. Donc voilà. Et ça, c'est un truc dont j'ai envie de travailler, en fait. Je veux que, bah, dans l'idéal, hein, même si c'est évidemment un petit peu illusoire comme vision, j'aimerais bien, même si j'ai un peu moins dormi, réussir à faire les trucs que j'ai prévu de faire, même si je suis dans un autre environnement, même si j'ai pas mangé mon steak bio, machin, machin, quoi. Parce que, bon, bah, c'est cool d'optimiser son quotidien, mais il faut pas non plus que ça nous rende fragiles, au point que, à partir du moment où ce quotidien diffère, on n'est plus capable de rien faire. Et ça, ça pose un problème. Alors, pour ce qui est des contenus de la semaine, je vais passer assez rapidement aussi sur ça parce que je trouve que c'est pas le plus intéressant, même si, bon voilà, c'est quand même assez cool. Et en même temps, peut-être que si vous n'avez pas vu certaines choses, vous pouvez aller le voir, même si là, cette semaine, on n'a pas énormément de contenu. J'ai posté 4 vidéos courtes, parce que comme je l'avais dit précédemment, je remets un peu mon focus sur ça avant de repartir sur du long, même si là, j'ai un tournage de prévu à Rome, je vais faire 24 heures dans la vie d'un prêtre, ça va être assez cool. Je pars mardi et je rentre vendredi. Donc ça, bon, encore une fois, c'est bien parce que je vais pouvoir voir à quel point est-ce que le fait de changer de nouveau d'environnement va me perturber ou pas. On verra bien. Donc c'est cool, ça va être un bon test. Et bref, je vais faire cette vidéo sur YouTube, mais pour le moment, je reste quand même focus sur le format court. Donc, il y en a eu 4 courtes, et notamment une que j'ai postée, je l'ai postée hier sur un restaurant 3 étoiles qui a super bien marché. Et ce qui est marrant avec cette vidéo, c'est qu'il y a une anecdote. En fait, j'ai fait une vidéo la veille sur le palace, parce qu'en gros, avec mon pote Jean, on est allé dans un palace, et le lendemain au soir, on est allé dans le resto 3 étoiles. Donc, je me suis dit, vas-y, bah, ça va être trop bien, je vais faire 2 vidéos. Donc, j'ai fait la première vidéo sur le palace. Et ça a été le plus gros bide de ma vie. Genre, elle a fait 3000 vues sur TikTok. J'ai eu le seum, je l'ai mise en privé. Je savais qu'elle n'était pas hyper bien, mais j'avais quand même envie de tester. Et c'est là où TikTok, c'est trop bien, c'est que tu peux balancer comme ça du truc et avoir un feedback avec le réel direct. Donc, j'avais le seum. Et au début, ma première réaction, c'était en mode, bon, bah, je pense la vidéo sur le resto 3 étoiles, je vais pas la faire, c'est pas ça parle pas à mon audience, les gens qui regardent ça et tout, c'est pas mon style de vidéo, moi je suis pas fait pour les vlogs, machin et tout. Mais je me suis raisonné, j'ai fait une balade et j'ai commencé à avoir des idées sur la manière dont je pourrais rendre ça intéressant, etc. Parce que le problème, c'était pas la vidéo du palace et le fait que je fasse un vlog, c'était juste l'angle qui était pas bon et la vidéo qui était pas intéressante. Enfin, moi, c'est souvent comme ça que je le perçois. Et donc, je me suis dit, bon, let's go, vas-y, c'est bon, on y retourne et on persévère. Donc j'ai pris mon temps hier soir de 19h à 22h, j'ai passé 3h sur la vidéo et finalement bah, ça a super bien marché. Donc on le voit pas, la vidéo qui a flop, parce que même moi je l'ai supprimée. D'ailleurs c'est peut-être pas, j'ai jamais réfléchi de manière un peu philosophique sur le fait de supprimer ces vidéos ou pas, à quel point c'était pertinent. Moi je me le dis que je le fais pour par exemple des marques qui vont tomber sur mon profil ou... Même des gens, ils vont se dire, ouais, en fait, le gars, il a un niveau d'oscillation qui est tellement énorme, c'est un peu abusé, on peut pas trop le faire confiance. C'est surtout pour les marques, en vrai, genre, ils se disent, bon, bah, si on fait une vidéo avec lui et qu'il fait 2000 vues, et qu'il a 1 million d'abonnés, c'est un peu de la merde, quoi. Donc, bref, c'est une des raisons, mais une autre, c'est évidemment mon ego aussi qui me dit, ah, je veux pas que les gens voient que j'ai pas fait beaucoup de vues. Bon, bref. Ça, c'est pour les contenus de la semaine. Après, j'ai fait des facecam aussi et tout. Et je vais refaire la même chose. Parce que je le vois là sur YouTube Short, ça reprend bien. Notamment parce que la régularité, c'est quelque chose d'important. On est parti sur les 5 grandes idées de la semaine en commençant par l'arnaque du biohacking. Alors, ça, c'était pendant que j'étais dans le train en retour de Paris. J'ai écouté un podcast de Nomad Slim, un mec vraiment que j'aime beaucoup. Et tout à l'heure, je lisais une citation de James Clear qui dit que la réputation, c'est l'écho de tes actions. Ça sonne mieux en anglais, c'est genre « Reputation is the echo of your action ». Mais en gros, c'est la réputation, c'est un peu le son, donc le son, mais en mode écho, tu vois, l'arrière-son de tes actions. Et je trouve que c'est très vrai. Et pour faire le lien avec Slim, c'est un mec qui a... qui met des actions en place de fou et pour qui j'ai énormément de respect et d'admiration parce que c'est assez extraordinaire. Genre le mec, la plupart du temps, s'entraîne 2 fois par jour, travaille 8 heures, etc. Il est vraiment acharné et il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs qui sont complètement fous. Et en plus de ça, sans mettre de côté sa santé, en ayant des relations, enfin bref. C'est assez incroyable et je suis très content. D'une part, de pouvoir écouter ce genre de personnes, parce que mine de rien, c'est une révolution. Genre là, tu m'écoutes, de base, on n'est pas censé être en contact pour plein de raisons différentes. Et c'est une chance pour toi, en tout cas, je l'espère. Et c'est une chance aussi pour moi et pour tout le monde, hein, d'ailleurs, d'avoir la relation et le contact direct avec des mecs aussi chauds. Tu peux écouter des conférences de Steve Jobs, enfin, bref, c'est n'importe quoi ça. Et donc j'aime souvent me connecter à des gens comme ça qui m'inspirent de manière parasociale, hein, seulement, même si Slim c'est un gars que j'ai déjà vu 2-3 fois en vrai et qui est à la hauteur de sa réputation. Bon, bref, tout ça pour dire que ça fait plaisir d'avoir des gens qui ont des idées intéressantes. Et là, en l'occurrence, son podcast tournait autour du biohacking et de comme quoi c'était une arnaque. Et en gros, il commence le podcast par une citation d'Alex Hormozy que je vais vous lire, bon, pas en entier parce qu'elle est un petit peu grande et elle est en anglais, mais en gros, ça fait « L'Amérique a été construite sur le dos des hommes qui fumaient des cigarettes, qui conduisaient sans ceinture et qui bouffaient du bacon tous les matins. » Et ensuite, Hormozy dit « Bon, si tu rates ta morning routine de biohacker, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. » Ensuite, il continue, il dit, bon, il y a un time pour, enfin, il y a un temps pour le leverage, donc en gros l'optimisation, mais il y a aussi un temps pour la violence, juste la force brute et le fait de passer massivement à l'action, quoi. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y en a beaucoup, et moi compris, de malades qui sont obsédés par faire les choses de manière la plus optimale possible, mais qui passent à côté d'un truc hyper important qui est juste d'avoir du volume, de maximiser en fait. Et donc, à la fin, il dit tu perds plus en essayant d'optimiser tout que de juste vivre la vie et the stress of trying to be perfect. Donc le stress, le fait d'essayer d'être parfait, ça te tue plus et plus rapidement que tes imperfections. Donc en gros, derrière cette idée se cache le fait que, en fait, c'est cool de vouloir optimiser des choses dans son quotidien et de se lever et d'aller voir les rayons du soleil, de machin. Oui, c'est bien, continuons à faire ça, etc. Mais quand ça disparaît, quand il y a une deadline de ouf et que bon, bah, tu dois rendre un projet en 2 jours et que bon, bah, tu vas devoir faire une nuit blanche, comment tu te comportes? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu arrives à tenir? Est-ce que tous ces trucs que tu as optimisés te servent ou au contraire t'ont rendu fragile? Et ça, moi, je le vois tellement et ça a tellement résonné en moi, ce podcast, où je me suis rendu compte que bah, j'étais un petit peu fragile. J'étais un petit peu fragile parce que oui, je me suis levé à 11h à Paname, j'étais là, j'étais en mode ouais, « vas-y, je vais pas travailler, la journée elle commence mal ». Je sens que je suis pas trop en forme, j'ai pas fait de sport, machin, bref. Mais ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal dans le sens où j'ai envie, en tout cas, une vision un peu idyllique de moi serait d'être capable, même dans ces périodes-là, de travailler et de faire le job. Et bon, bah, je me lève à 11h, on s'en branle, on peut quand même aller faire une séance de sport. Ça fait rien. Et donc, tu deviens fragile quand ton quotidien devient linéaire. Et bah, c'est ce que j'ai écrit, je l'ai vu en allant à Paris. Je suis capable de tenir ma routine d'entraînement, je suis plus capable de tenir ma routine d'entraînement, je mange moins bien, et bon bah c'est ok, j'accepte la vie comme elle est, c'est-à-dire volatile et imprévisible, mais maintenant j'ai quand même des objectifs et malgré ça je vais faire tout mon possible pour réussir à les atteindre. Et si on fait le parallèle avec le biohacking, qui est pas exactement la même chose mais vous allez comprendre, c'est que en fait les gens quand ils essayent de hacker un petit peu leur vie, d'ailleurs, c'est pas possible d'hacker la vie. La vie, elle est ce qu'elle est, amorphatis, et voilà, il faut l'accepter telle qu'elle est et ne pas essayer de la changer. En tout cas, tu peux tordre un petit peu ta réalité personnelle, mais à l'échelle macro, tu peux rien y faire. Ou en tout cas, assez peu. Et d'ailleurs, ça, Ray Dalio, il en parlait dans Principles, lui disait, la nature optimise pour le tout et non pas pour l'individu. Donc à chaque fois, à choisir entre faire plaisir à une personne versus optimiser tout l'écosystème, bah, la nature, elle prend toujours l'écosystème d'un point de vue macro. Ça, c'est important à comprendre. Et donc, pour revenir sur le biohacking et le fait d'essayer un peu d'hacker comme ça la vie, c'est une recherche, en fait, de minimiser les efforts et de trouver des raccourcis pour aller plus vite. Mais malheureusement, c'est au début quelque chose qui ne fait pas sens. Au début, tu dois faire le travail et peu importe la manière, parce que ce qui compte, en fait, c'est le volume. Et après, petit à petit, tu vas pouvoir optimiser pour avoir plus de leverage et pour faire plus en fournissant moins d'efforts. Mais au début, quand l'approche du biohacking et de la productivité, etc., c'est de faire moins parce que, bah, en fait, on a un peu la flemme et qu'on se dit que ça serait quand même cool d'éviter de faire certains sacrifices, etc., bah, c'est pas souvent le moyen le plus, je dirais pas efficace, mais le plus honnête pour atteindre ton objectif d'une certaine manière. Et tu perds toujours contre celui qui est prêt à sacrifier plus que toi. Et si je reviens un petit peu sur mon expérience en tant que créateur de contenu, bah, au début, je faisais 2 vidéos par jour. Je faisais 2 vidéos par jour et je passais 8 heures derrière le PC à faire du montage, à faire le travail, etc. Et j'avais pas le choix. Et bah, à ce moment-là, j'étais en train de baisser peut-être mon acuité visuelle parce que je passais trop de temps derrière l'ordi. Oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier un truc, et j'en parlais dans un podcast, ça qui n'est pas encore sorti, c'est que les conseils et les recommandations que les gens qui ont, par rapport aux gens qui ont réussi aujourd'hui, ils vont donner des trucs qui fitent avec leur quotidien actuel en oubliant qu'est-ce qu'ils ont fait par le passé pour atteindre cet état. Et ça, c'est un piège. Genre, tu vois plein de gars qui te disent aujourd'hui, ouais, je travaille 2 heures par jour, machin, je suis hyper productif, je gagne 200 000 balles, machin. Vas-y, ok, très bien, je te crois, il n'y a pas de souci, et j'imagine que tu fournis énormément de travail, puisque bah, tu as des équipes, tu as énormément de leviers, tu utilises Internet, tu es devenu un boss, let's go, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que tu faisais il y a 5 ans, quand tu étais broke et que personne ne te connaissait? Eh bien, il y a de fortes chances qu'à ce moment-là, tu travaillais peut-être plus 10 heures par jour et qu'il y a des moments, tu skippais la salle parce que tu devais faire des autres trucs, tu devais respecter des deadlines, etc. Et donc ça, très souvent, on l'oublie. Et moi, le premier, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je prends cet exemple parce que c'est celui sur lequel j'ai le plus de retours. Je passais 10 heures par jour à faire du montage, je voyais plus beaucoup mes potes, je buvais plus d'alcool, j'allais plus en soirée, enfin bref, il y avait plein de trucs comme ça qui, à mon avis, sont quand même assez importants de le processus. Donc voilà, le biohacking c'est cool, mais au bout d'un moment, on n'oublie pas que, bon bah ouais, si tu veux prendre du muscle, faire 6 séances de muscu plutôt que 3, ça va aller plus vite, hein, je t'assure que oui. Et c'est comme ça que tu vas progresser. Et après, une fois que tu auras construit un physique solide, ouais, là, tu pourras te contenter de 3 séances de muscu par semaine. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est un peu ce que je fais. C'est un peu de l'entretien. Je continue à progresser, mais je progresse doucement. En vrai, si je voulais devenir plus rapidement chaud en muscu, bah, je ferais plus 5-6 séances par semaine, largement. Et donc, il faut faire attention avec le biohacking et avec cette envie de trouver des raccourcis parce que souvent, en fait, c'est juste... la flemme et la mauvaise compréhension du vivant. Et c'est exactement la même chose avec l'IA et ChatGPT, où en fait, on essaye de réduire l'effort qu'on fournit et on se base sur des moyennes, sur des trucs, enfin bref. Deuxième grande idée, comment avoir le réseau de Tarantino? Et là, je vais vous parler un peu de ma rencontre avec François à Paris et de l'art du networking, qui est un truc vraiment important. Mais avant, je vais boire. Ça fait du bien. Alors, le networking, le réseau, c'est un truc à la base que moi je trouvais surcoté et je sais pas pourquoi, mais ça m'intéressait pas beaucoup. Notamment peut-être parce qu'il y a cette démarche un petit peu intéressée souvent dans des soirées où on est là pour réseauter, pour machin, et c'est ah vas-y, je prends ton WhatsApp et tu peux m'aider sur ça et toi tu peux m'aider sur ça en échange et machin et machin. Donc ça, j'aimais pas trop. Mais au final, je me suis rendu compte qu'on pouvait se créer un réseau sans forcer en fait, le fait de se créer un réseau, mais simplement en essayant de connecter avec des personnes qui nous donnent envie et on voit. On voit ce qui se passe et naturellement, il se crée des connexions. Comme le dit Steve Jobs, « You will connect the dots later ». Tu connecteras les points plus tard. Donc souvent, il y a des rencontres, il y a des trucs, tu ne sais pas pourquoi c'est là. Tu sais pas ce que ça va donner et moi je me dis souvent que c'est pas grave si dans l'immédiat ça n'a pas de retour sur investissement, même s'il n'y en a pas à long terme, on s'en fout, mais souvent on a des bonnes surprises et c'est tant mieux. Et donc c'est un truc que je fais sans trop m'en rendre compte de développer mon réseau et d'ailleurs aujourd'hui j'ai un sacré réseau, hein, notamment avec le fait que les créateurs sont devenus un peu des gens à haut statut, on va dire, et donc que c'est facile après de connecter avec d'autres milieux qui estiment ça comme ayant un statut élevé. Mais en vrai, si c'est un haut statut, c'est notamment par rapport à ses implications aussi. Être créateur de contenu et faire des millions de vues chaque mois, ça fait beaucoup d'argent, ça a énormément d'impact, etc. Donc c'est normal, c'est corrélé à la valeur que tu apportes, et peu importe la manière dont ça se passe. Bref, j'ai rencontré François, qui a lui aussi un réseau de malades, bon bref, et il m'a expliqué des trucs un petit peu sur le networking que j'aimerais vous partager pour faire en sorte de connecter avec les gens qui vous inspirent ou... enfin bref. Et d'ailleurs, lui, il donne des cours dans des grandes écoles de commerce ou même à Polytechnique et tout, je crois, sur comment se faire des amis, sur comment devenir une personne intéressante, etc. Et à la fin, une des missions, un des travaux pour valider le trimestre, c'est de choper le contact ou d'aller boire un café, genre avec Brigitte Macron, ce genre de trucs. Bref, ce mec est un peu zinzin et je kiffe cette capacité à sortir des sentiers un peu battus et même dans des écoles de co et tout, de faire des cours comme ça, quoi. Magnifique. Bref, la première chose, il m'a dit, l'étape 1, si on veut connecter avec quelqu'un, c'est de trouver le contact le plus direct possible. Donc, Quand tu viens par exemple de la part de quelqu'un et que la personne te connaît, c'est top parce qu'il y a un élément de confiance qui se crée, etc. Et moi, je vois beaucoup de gens qui font de la prospection en mode ils envoient des mails génériques où ils répètent, ils essayent de faire beaucoup de volume, mais ça, avec un petit peu d'expérience dans le domaine et en échangeant avec les potes là, de la startup qui font ça toute la journée, ils se sont bien rendu compte et de l'agence de créateurs que ça marchait pas. Et donc, il faut vraiment faire un effort pour maximiser ces taux de réponse. Même si, bon, bah, vous imaginez bien, hein, le volume, c'est tout aussi important que la qualité, surtout au début. Et donc, bon, bah, un des trucs très importants, si on veut contacter par exemple quelqu'un et maximiser son taux de réponse, c'est d'avoir quelque chose d'un peu personnalisé. Donc, souvent, c'est un message rapide qui va droit au but et un objet aussi qui crée de la curiosité. Ça, c'est important pour maximiser les chances qu'il ouvre le truc, etc. Et on peut aussi se déplacer en physique pour montrer qu'on est motivé, qu'on est quelqu'un de confiance, qu'on sait bien s'exprimer, machin. Ça, moi d'ailleurs, d'expérience, c'est toujours comme ça que j'ai trouvé des jobs. Où, par exemple, j'étais allé à Carrefour avec mon CV à la main et je dis, ouais, je cherche du travail et tout. Oh, bah ok, bah, vous pouvez aller voir le patron, il est là-bas. Ça tombe bien. Ok, bon, bonjour monsieur, je me présente. Tac, bon, il voit que t'es là, il voit que tu sais, enfin, t'as une poigne de main normale, bref, que t'as de l'énergie. Et ça. Ça a beaucoup de valeur. Et donc, bah, si vous voulez connecter avec certaines personnes, si vous avez envie de trouver un truc, de provoquer quelque chose, allez-y en physique, c'est encore mieux. Et faites du volume. Ensuite, le truc à faire qui est important quand on fait du réseau, c'est la crédibilité. Il faut rapidement que la personne que tu contactes comprenne qu'elle a en face de toi une opportunité où elle va pouvoir tirer quelque chose. Et ça, il ne faut pas l'oublier, mais les gens fonctionnent toujours dans leur intérêt et c'est normal. Et bon, bah, pour ça, il y a plusieurs moyens d'augmenter sa crédibilité. Ça peut être, par exemple, bah, d'avoir des abos sur les réseaux, hein. C'est un peu triste, mais c'est comme ça que ça marche. Être certifié sur Insta, par exemple, ça peut maximiser le taux de réponse. Se montrer avec des gens connus ou des gens que les personnes connaissent, ça marche très bien. Avoir une image propre et carrée avec laquelle on a envie de s'associer. Bref, tous ces trucs. Montrer par le passé aussi qu'on a été capable de faire des choses et tout. Bref. Ça, c'est par exemple quand vous, je sais pas, moi je reçois souvent des messages de mecs qui veulent devenir mes monteurs ou miniaturistes et tout. Bon, bah, si je vois que par le passé il a travaillé avec telle personne qui me montre à quoi ça ressemble, etc., ça donne beaucoup plus envie. Et ensuite, il faut faire une proposition de valeur. Et moi d'ailleurs, c'est ce que j'avais fait avec Yomi, le fait d'avoir pu connecter avec lui. Bon, au départ, c'est un peu un coup d'audace où, bon, moi je me retrouve à Dubaï sans argent. Et c'est what the fuck, on a fait un truc stylé, donc on est invité un peu sur le yacht pour le podcast. Ensuite, je prends la parole sur le podcast et je pose une question un peu random. Je reprends le micro sur le podcast pour dire un truc qui est à peu près pertinent. Et donc, Oussama me propose d'aller dormir chez lui, etc. Enfin bref, il faut montrer qu'on est compétent sans en faire trop. Etc. Et ce qui a fait que j'ai pu faire la vidéo avec lui, c'est que je lui ai proposé de faire 24 heures dans sa vie, de faire une vidéo YouTube où il pourra en tirer des extraits, etc. Et donc forcément, bah, c'était aussi dans son intérêt de faire ça parce qu'il a une vidéo en plus sans rien faire et ça augmente le fait qu'on parle de lui. Donc souvent, c'est plutôt cool et surtout quand vous avez déjà des gens qui vous suivent. Bref. Ça, c'est un peu les leçons qu'il m'a données sur le networking. Et il y a d'autres choses, d'ailleurs, très intéressantes. Par exemple, le fait d'entretenir assez régulièrement son réseau. Donc souvent, il envoie des messages. Et un autre truc que j'ai trouvé très, très intéressant, c'est de donner comme un fou furieux. Genre, s'il peut rendre un service, le mec le fait tout le temps. Et bah, c'est exactement ce qu'il fait avec moi, où moi, pour le moment, j'ai pas grand-chose à lui apporter à part de pouvoir peut-être le mettre en valeur sur une vidéo, mais ça l'intéresse pas, il s'en fout un petit peu. Mais lui, il est là, il me dit, genre, je vais vous lire le message, hein, le message qu'il m'a dit, enfin qu'il m'a donné, c'est abusé. En gros, je lui ai fait un truc pour lui dire, bon, voilà, toutes les prochaines idées de vidéos que j'aimerais exploiter. Donc j'avais mis, voilà, 24 heures dans la vie d'un rappeur, 24 heures dans la vie d'une mannequin, d'un acteur, d'un dealer, d'un recruteur du PSG. Bref, je lui ai fait plein d'idées comme ça, un peu what the fuck. Il m'a fait un message, les gars, où il m'a dit, ok, 24 heures dans la vie d'un rappeur. Bon, bah, j'ai un bon pote qui est journaliste, c'est Mehdi Maizi. Ok, super. 24 heures dans la vie d'un acteur. Ah, bah, si tu veux, je connais bien le réalisateur du Bureau des légendes. Sinon, j'ai mon pote Pierre Thévenoud, chroniqueur sur France Inter. What the fuck? Et ça continue, genre, et c'est comme ça où il me dit, ah, bah, là, je connais, tac. Tu veux faire 24 heures conduire un avion? Ah, bah, j'ai des potes pilotes chez Air France. Enfin, bref. Et c'est une dinguerie. Le mec, il a pas besoin de faire ça. Et je comprends pas exactement pourquoi, mais d'une part, je pense qu'il m'a sûrement bien apprécié par rapport à nos visions de la vie qui sont assez alignées sur plein de choses. Il m'a passé des recommandations de livres, etc. Et donc ça, c'est une manière où moi, en fait, si un jour, là, il m'envoie un message, il me demande que je lui rende un service, mais évidemment que je le fais. Et ça, c'est ce que disait Alex Hormozzi. « No one's ever complained about getting too much value. » Personne ne s'est jamais plaint d'avoir reçu trop de valeur. Donc ça, c'est une démarche que j'ai envie d'entreprendre désormais dans ma vie, qui est de ne pas hésiter à rendre service comme un ouf, de délivrer, de surdélivrer sur plein de choses. Et forcément, au bout d'un moment, je ne sais pas comment, ça me servira et ça sera utile. Donc il faut vraiment en profiter. Et avoir un réseau, c'est peut-être un des trucs qui, avec le temps, en termes de capitalisation, a le plus de valeur. Même peut-être plus que tout l'argent que tu as accumulé, etc. Parce qu'une fois que tu as construit ça, c'est quand même très solide. Et je trouve que sur le jeu du long terme, c'est intéressant d'avoir... En vrai, réseau, on pourrait même juste dire ami, même si réseau et ami, c'est pas la même chose. Ami, c'est quand même un terme fort qui d'ailleurs perd pas mal de sa valeur. Ou bon, bah, j'ai 300 amis sur Facebook. Je me souviens, ma mère, elle se moquait de ouf de moi quand je lui disais que j'avais plein d'amis sur Facebook. Elle me disait que bah, c'était pas vraiment des amis. Elle avait totalement raison. Donc le réseau et les amis, c'est pas la même chose. Même si dans nos amis font partie de notre réseau, on peut étendre quand même le réseau à un petit peu plus largement. Mais bon, bah, c'est comme les fruits, ça s'entretient. Il faut y prêter attention. Et surtout, il faut que ça soit une relation qui aille dans les deux sens. C'est très important. Mais en tout cas, je vous pousse vivement à aller dans des événements où il y a des gens qui vous inspirent, vous avez envie de rencontrer, à vous montrer, à sortir, à connecter, à nouer des relations. Parce qu'on apprend beaucoup dans ce genre de moment-là et on ne sait pas ce qui peut se passer. On peut rencontrer notre prochain associé, on peut rencontrer notre meuf, on peut rencontrer plein de choses. Et donc, c'est vraiment très stylé. Troisième leçon, je voudrais vous parler de ce que j'ai appris en allant dans un 3 étoiles. La première chose, juste pour ceux qui ne savent pas, restaurant 3 étoiles, c'est le truc le plus stylé peut-être du monde. Hein. Je crois que ça n'existe pas, les restos 4, 5 étoiles, c'est quasiment sûr, en tout cas chez Michelin. Et donc, on est sur de la cuisine de très, 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 très haute qualité. Et c'est une expérience qui vaut vraiment le coup. Et d'ailleurs, par rapport à ça, petit bonus, moi j'ai une vision sur l'argent, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais je préfère largement dépenser quick et en one shot sur un truc qui limite peut être un peu cher et tout, mais contrairement à un truc où il y a du recurring. Et ça pour moi, c'est un des plus grands pièges de l'argent, c'est donc d'augmenter son lifestyle, ça on en parle souvent, mais c'est pas pour autant que tu as de l'argent qu'il faut pas le dépenser. C'est juste que tu peux le dépenser, mais que sur du one shot, que sur du « ok, là j'ai la thune, là j'ai le cash, let's go, on y va, on fonce, on le fait ». Mais si tu commences à te mettre dans un cercle vicieux où il y a cette facture qui revient à 5000 euros par mois, il y a machin, bah tu vis dans un quotidien qui est hyper stressant, où tu augmentes fortement les probabilités que tu commences à faire des trucs pas ouf ou que l'argent devienne ta priorité parce que t'as pas le choix et t'es dans un cercle vicieux qui s'arrête jamais. Donc ça, il faut faire attention à mon avis, et c'est pour ça que bah là, moi, je suis chez ma daronne, parce que j'aime bien aussi cette idée de prendre assez peu de risques dans ma vie personnelle. Donc voilà, je suis chez ma mère, je paye juste un petit local à 250 balles par mois pour aller travailler où j'ai des potes, etc. Je paye mon abonnement à la salle, je paye les courses. Bon, là, il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc bref, on est très, très faible du côté perso. Par contre, du côté pro, je peux m'exposer à des risques énormes. Et c'est pour ça que là, j'ai pas peur d'aller faire une vidéo à Rome où certes, je vais payer en tout pour tout peut-être 2000 balles pour la vidéo et que je vais gagner sûrement 500. Mais c'est pas grave, je sais que sur le long terme, ça vaudra le coup et que c'est un risque qui... En fait, c'est d'ailleurs la définition d'un risque, hein, c'est d'avoir un doute sur le retour sur investissement, mais qui a un potentiel qui est énorme. Et je pense que c'est le cas avec ça. Bref, on revient sur les leçons du 3 étoiles. Première chose, c'est l'art de la subtilité. Ça, c'est très impressionnant. À la base, quand on imagine un peu la haute couture, la haute gastronomie, etc., on pense à quelque chose de très sérieux, ce qui est vrai, mais pas totalement, notamment parce que, en fait, les meilleurs, ils arrivent néanmoins, malgré tout le sérieux qu'il y a autour de ça, malgré toute l'élégance, etc., à être marrant, à être sympathique, à être capable de faire des jeux de mots, à être capable de te mettre à l'aise, etc. Et ça, pour moi, c'est le summum de l'élégance. C'est pas juste on est froid, on est sérieux, on est élégant, on est charismatique et tac, on bouge pas et on est là, on fait des mouvements tel un robot. Non, il y a le charisme, il y a le truc, mais il y a aussi l'élégance et la grande subtilité d'être capable, même quand t'es serveur, de tu fais tomber un couvert, bon bah t'es capable de faire une petite blague pour dire ah c'est marrant, enfin bref. Toutes ces choses-là, je trouve qu'on les retrouve pas beaucoup ailleurs, ou en tout cas on les retrouve mais sans l'élégance associée à ce qu'on pourrait appeler, je sais pas, l'image, le charisme, etc. Donc ça, j'ai vraiment été impressionné par ça et je me suis dit bon bah, vas-y frère, c'est un gastro, t'es là, il faut pas faire de blagues, il faut pas faire de dérapage, pas du tout, pas du tout, mais pour autant, ça reste très élégant. Et c'est ça qui est fascinant, vraiment c'est fascinant. La deuxième chose, c'est que quand c'est bon, ce n'est pas long. On a passé 3h30 dans le resto, mais contrairement à la plupart des endroits où tu vas manger et t'es là, ils vont mettre du temps pour cuire mon steak frites, bah là, tu t'en fous complètement et le temps passe très très rapidement. Et j'ai eu la même prise de conscience il n'y a pas longtemps avec la pièce de théâtre que j'étais allé voir qui s'appelait Daddy, où ça durait 3 heures et au final, ça ne m'a pas paru si long que ça. Pourquoi ? Parce que, bah en fait, quand c'est bon, ce n'est pas long. Et on dit souvent qu'on a un problème d'attention, mais en réalité, il réside surtout dans son accès et son manque de qualité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire des vidéos sur Internet, et donc, on tombe souvent sur des choses qui ne sont pas spécialement de qualité. Donc on zappe, on zappe, on zappe, on zappe. Et c'est peut-être un des pièges avec Netflix, c'est que comme ils ont un rythme de production qui est effréné, souvent on ne trouve pas ce qu'on veut, et notamment parce que ça manque un petit peu de qualité, ça manque de fond. Et donc, quand le fond est là, on a l'attention nécessaire et on est capable de l'apprécier. Malheureusement, c'est quelque chose qui quand même a tendance à se perdre, hein, évidemment, mais même moi qui est de temps en temps un peu... Je pense que j'ai quand même une attention un peu plus importante que la majorité des gens aujourd'hui, et tu en fais sûrement partie, notamment parce que tu es capable d'écouter un podcast depuis 36 minutes, ce qui aujourd'hui est rare, donc félicitations pour ça, et je suis content de maximiser ton attention, ou en tout cas de faire en sorte qu'elle ne disparaisse pas, et ça c'est cool, mais la plupart des gens aujourd'hui n'en sont pas capables, et bref, moi les 3h30 ça m'a pas paru long, mais même Jean qui, et souvent ça lui arrive de scroller, lui non plus en fait, on était très bien, et bref. Troisième chose, le travail d'équipe est la chose la plus importante. Ce qui est ouf chez les serveurs, c'est qu'on a l'impression de voir un ballet, de voir une danse, et notamment parce que tout ce qu'ils font est en rythme, est en coordination, et sincèrement, c'est très joli à voir la manière dont ils se déplacent, la manière dont ils communiquent, dont ils travaillent ensemble, c'est très discret, enfin, vraiment, c'est tout un univers, tout un métier qui demande un niveau d'exigence qui est extrêmement élevé. Et en plus de ça, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un vrai travail d'équipe où s'il y a un serveur qui est en dessous des autres, ça va se ressentir et ça va impacter tout le reste de l'équipe. Donc, quand on devient serveur, il faut être fort pour soi, et ça vaut aussi pour la vie, mais aussi pour les autres. Et par exemple, il y a un truc que font les serveurs, c'est que, en gros, ils arrivent avec le plat, ils se mettent en face de la cuisine et en gros ils attendent. Il y a la meuf, elle porte, ou peu importe, la meuf ou le mec porte l'assiette et ensuite elle attend qu'il y ait deux serveurs qui soient prêts pour pouvoir servir comme nous on était deux, parce que c'est une assiette pour un serveur et pas plus. Et donc, s'il y a des serveurs qui sont là, qui sont dans les choux et tout, tu vas mettre beaucoup plus de temps à aller servir les gens et ils ont constamment besoin de faire leur travail en équipe. Et bref, c'est assez magnifique et j'ai retrouvé ce principe un petit peu de coopération que je trouve assez important et qui se perd. Et on peut d'ailleurs l'appliquer avec le fait de vivre au quotidien avec des gens qui sont assez exigeants envers eux-mêmes, parce que ça nous pousse à faire exactement la même chose. Et comme tous les serveurs ont un niveau extrêmement élevé, bon bah ils ont tous cette concentration ultime, ils sont tous très subtils, etc. Enfin bref, j'ai trouvé ça vraiment stylé. Quatrième idée, parlons du paradoxe de Fred Kinn. Je vais pas vous mytho, celle-là je l'ai trouvée juste avant de tourner parce que il m'en manquait 2-3 et je l'ai reçu dans une newsletter. D'ailleurs, ça c'est vraiment cheaté d'augmenter la qualité de ses inputs, la qualité des informations qui viennent dans ton cerveau, parce que bah, c'est littéralement en fait ce qui va ressortir. C'est comme le système digestif, hein, la qualité des aliments que tu ingères vont déterminer un peu la qualité de tes selles. Bon, bah, c'est exactement la même chose avec les idées, avec les gens que tu fréquentes, etc. Tout est lié, l'intérieur, l'extérieur, ça fait des va-et-vient en permanence. Et c'est pas que l'intérieur vers l'extérieur, mais c'est aussi de l'extérieur vers l'intérieur. Bref, et j'ai trouvé ça donc dans une newsletter qui est super intéressante. Et le paradoxe de Fred Kinn, je cite, nous dit que dans une situation où un choix doit être fait, plus les options sont séduisantes, plus il est difficile de choisir, mais moins les conséquences deviennent importantes. Et ça, c'est très intéressant. Parce que au début, quand on doit faire un choix, prenons par exemple un restaurant, la première chose qu'on va faire, c'est ce qu'on appellerait un dégrossissement, un filtrage. En gros, bon, tu vois la carte, il y a 20 plats, très vite, tu vas dire, bon, ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pas pour moi, ça, pas mal, ok, ça, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, ça, pas mal. Donc, à la fin, après avoir passé l'étape 1, il va te rester, on va dire, 3 plats que t'aimes plutôt bien, parce que c'est les trois derniers que tu as choisis et c'est les trois restants. Et donc là, à ce moment-là, tu vas devoir faire le choix entre les trois. Et souvent, pour la plupart des gens, et pour moi aussi, c'est le moment le plus long et le plus difficile. Alors que pourtant, on est face à trois plats qui sont censés nous plaire. Et donc, les conséquences de ce choix sont beaucoup moins importantes. Et c'est très intéressant comme constat parce que, eh bien, ça permet de prendre des décisions, notamment sur des décisions qui se ressemblent, beaucoup plus rapidement, parce que la différence entre les deux est extrêmement faible. Et donc, on se retrouve à passer beaucoup de temps sur une décision qui, au final, n'a pas d'importance, ou en tout cas, très peu. Et ça, c'est assez paradoxal, et c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fred Kinn. Par exemple, si tu dois... Comment on pourrait trouver une application dans la vie. Tu hésites entre mettre un t-shirt blanc ou un t-shirt noir. Les deux se ressemblent vachement. Bah, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est peut-être pas le meilleur choix, mais bref, enfin, le meilleur exemple. Mais vous avez compris l'idée. Je ne vais pas m'attarder plus sur ce point. Je pense que c'est assez clair. Et la prise de décision, c'est quand même quelque chose de très important. Et je trouve que plus on progresse dans ce domaine, plus on devient compétent et plus on monte dans le niveau de responsabilité, etc., plus on est payé sur notre capacité à prendre des bonnes décisions parce que ça a des répercussions qui sont assez énormes. Et donc, je pense que c'est assez important de travailler sur ça. Et d'ailleurs, il y a une vidéo dont j'ai déjà parlé, il me semble, de Sam Ovens, sur How to make a better decision, qui est vraiment très intéressante, que je vous invite à aller voir si vous n'avez pas déjà eu la chance de regarder ça. Ou sinon, il y a Annie Duke, donc Annie Duke, je crois, qui est ancienne joueuse de poker pro, qui a écrit un livre qui s'appelle Thinking in Bets, que je n'ai pas encore lu, mais qui parle notamment de la prise de décision et de la capacité à mieux les gérer. Et d'ailleurs, dans le poker pro, c'est exactement ça en fait. C'est la capacité à prendre de meilleures décisions qui fait que tu vas gagner ou pas la partie avec évidemment un facteur chance. Je voulais faire une vidéo 24 heures pour gagner un tournoi de poker pro sans expérience. Si vous êtes... D'ailleurs, je me permets de vous passer un petit mot parce que vous êtes quand même 1000. Si vous avez un métier ou une activité qui est un petit peu atypique, un petit peu hors du commun, c'est avec plaisir, pourquoi pas, d'en discuter sur Insta ou par mail directement si vous voulez que je lise augmenter la probabilité que j'ouvre le message. Franchement, par mail, vous êtes à 70-80%. Donc allez-y. Et si vous avez un métier atypique, un truc qui pourrait faire une vidéo sympa et qui a ce bon mélange cool entre découverte, fun, exploration et en même temps transmission de quelques trucs, bah dites-moi, ça pourrait être très cool. Cinquième grande idée, on va parler de l'unfair advantage et le fait de le cultiver. Bon, pour ceux qui ne savent pas, l'unfair advantage, c'est un truc, une compétence, une habilité dans laquelle vous avez plus de facilité que les autres sans fournir plus d'efforts. Et ça, en général, on recommande de capitaliser sur ça parce que, à effort égal, on a des résultats qui sont complètement différents et à raison. Maintenant, il y a un phénomène qu'on appelle la loi de Rothbard qui dit que, c'est assez marrant, les gens ont tendance à faire des trucs pour lesquels ils ne sont pas doués du tout. Et il y a un exemple qui est marrant, c'est celui des introvertis qui veulent devenir speaker parce que justement ça les challenge alors qu'ils sont pas naturellement bons là-dedans. Et je trouve qu'on encourage beaucoup le fait de cultiver ces unfair advantages, etc. Mais on oublie de dire que les choses ne sont pas dures par essence, mais toujours relativement à la personne qui les pratique. Et donc ça fait lien évidemment avec l'unfair advantage et le fait que les choses ne sont pas dures par essence. C'est pas y a rien qui est dur par essence, comment on pourrait... Enfin, il n'y a rien qui est dur de manière intrinsèque, tu vois. C'est toujours en fonction de toi, en fonction de ton passé et de tes capacités. Et maintenant, c'est là où c'est intéressant, dans les chemins et les voies à explorer et la manière dont on va faire ça. Je pense que dans notre travail ou dans les choses dans lesquelles on veut performer au plus haut niveau, on a tout intérêt à partir de ces unfair advantages et de les explorer et de les défoncer le plus haut possible. Si naturellement t'es bon à réfléchir, t'es bon en maths, et que ça te fait kiffer, mais vas-y, let's go, défonce tout et deviens le plus grand mathématicien de tous les temps, t'as des chances. Maintenant, et c'est là où on touche à quelque chose d'intéressant, c'est que souvent les gens, comme ils ne sont pas bons à quelque chose, ils se disent qu'ils arrêtent de le faire et ils ne vont pas dans cette direction. Et ça, pour moi, c'est aussi un problème, cette tendance à fuir la difficulté, soi-disant parce que c'est relativement à notre personne, on n'est pas doué pour faire ça. Alors que c'est justement une des grandes voies de progression. Et ça, je l'ai lu dans la newsletter de mon ami, de mon mentor, de Pierre Dufraisse, un des mecs qui m'inspire le plus sur cette terre, on va pas se mentir, et qui parlait lui de son exemple personnel avec l'écriture, comme quoi de base il avait l'habitude d'écrire tous les jours pendant une heure et donc que c'était devenu facile pour lui. Et on en revient avec le fait que c'est pas dur par essence, mais toujours relativement à la personne qui la pratique. En gros, lui, à la base c'était dur, mais comme il a pris l'habitude de le pratiquer, c'est plus dur. Donc il s'est dit, vas-y, je vais faire des poèmes, etc. Mais au final, il a commencé à le faire et c'est devenu facile. Et donc il s'est dit, ok, je vais faire des poèmes en 4-1. Et voilà la nouvelle chose que je vais m'imposer. Et je trouve que aujourd'hui, dans notre quotidien, on a trop souvent tendance à fuir ces choses nouvelles dans lesquelles on n'est pas à l'aise, notamment parce qu'on nous a matrixé la tête que si t'es pas doué pour ça, il faut pas le faire, c'est pas grave, etc. Qui est un peu à l'inverse de pratiquer son unfair advantage, mais qui n'est pas incompatible. Et on peut avoir un 80-20 dans le sens où 80% du temps, on fait un truc dans lequel on est doué et on bombarde sur ça, mais 20% du temps, on peut aller exploiter ces choses dans lesquelles on n'a absolument pas d'aisance, mais dans lesquelles on va trouver beaucoup d'inconfort, de leçons et de challenge qui justement va nous faire progresser et qui, on ne sait pas, you will connect the dot later. Pourront avoir de l'impact sur les 80% où on est super bon. Donc ça, c'est important pour moi de cultiver la difficulté et de ne pas vivre dans un quotidien et dans des activités dans lesquelles on est toujours trop à l'aise, parce que sinon il y a plus de progression. Et ça fait lien avec ce que disait Andrew Huberman, comme quoi dans le cerveau, quand on, je sais plus c'est quelle partie exactement, mais peu importe. Dans le cerveau, quand on fait un truc vraiment difficile et qu'on n'a pas envie, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Il y a une progression, on va dire, dans le cerveau, et c'est plutôt quelque chose de bénéfique. Notamment parce que les gens qui ont cette partie du cerveau plus développée sont des gens qui ont moins de problèmes d'obésité, qui ont plus de réussite, etc. Donc, oula, j'allais dire voilà, mais pour ceux qui ont écouté le dernier podcast, vous savez que j'essaye de travailler sur cette élocution. Et justement, ça, c'est un truc qui est pour moi peut-être un petit peu difficile. Donc, on y travaille. Recommandation de la semaine. J'ai rien écrit, mais je pense qu'en impro comme ça, je peux vous trouver quelque chose de sympa. il y a un livre qui m'a recommandé le bon François, dont j'aimerais vous parler, qui est « Le courage de la nuance ». A priori, c'est excellent. Je me permets de faire une recommandation sur un truc que je n'ai pas consommé. Peut-être que je devrais créer une règle qui dit que je n'ai pas le droit de faire ça. À vous de me dire. Ça ne serait pas, ça serait pas déconnant parce que j'ai à cœur. Et ça, c'est une des qualités que j'apprécie beaucoup, de plus en plus, en tout cas chez les êtres humains. Enfin, chez les êtres humains, chez certaines personnes, qui est on va dire ce skin in the game, ce truc où tu t'arrêtes de parler des trucs que tu connais pas, tu donnes seulement des exemples qui te sont personnels, quand tu prônes des valeurs ou des choses, tu le fais, etc. Et je tends aussi à aller vers ça et vers cette exemplarité que je trouve très, très importante. Bref, je reviens quand même sur ce livre, Le Courage de la Nuance, qui a priori semble très intéressant. Donc si ça vous parle, le titre est assez éponyme, dans le sens où ça parle d'être capable à certains moments et la plupart du temps même d'être nuancé, parce que souvent c'est là où se trouve la plupart des vérités qui ne sont ni noires ni blanches mais souvent grises, et pourtant c'est assez difficile d'assumer ça parce que quand on n'a pas des avis assez clairs, etc., les gens ont du mal avec ça, ils aimeraient nous catégoriser, nous dire que lui c'est telle personne, lui il vote à tel endroit. Mais en fait, la vie, souvent, c'est pas comme ça, c'est pas manichéen. Hein. Et d'ailleurs, il me disait, François, que lui, tous ses amis, il n'y a aucun de ses amis qui sait pour qui il vote, tellement il est nuancé et il est imprévisible aussi. Et j'aime beaucoup ce trait de caractère et ce trait de personnalité, d'être capable d'être imprévisible, d'être capable d'être nuancé, réfléchi, d'être ouvert aussi sur ce que pensent les gens, etc. C'est vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours. Hein. Pour moi, c'est très important parce que, certes, il y a pas mal d'écoutes, mais je vous avoue que je me suis habitué à beaucoup de récompenses pour un effort fourni. Ou dès que je fais une vidéo, je vois que waouh, ça fait plein de vues et tout. Et je suis en mode, allez, let's go, on continue. Le podcast, il y a moins ce phénomène. Pourtant, je continue, ça me demande un effort. Et donc, c'est cool. Je suis content de progresser dans cette voie. Et c'est pour ça que si vous voulez que je sois encore meilleur et encore plus motivé, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles un petit peu partout. Je vois aussi sur Spotify, il y a la question-réponse. Des fois, vous laissez des messages qui sont très sympas. Donc, merci pour ça. Et si vous voulez me faire un retour sur Insta, j'en reçois quand même assez souvent. Ça me fait très plaisir. N'hésitez pas, parce qu'on est fait aussi pour communiquer. Et qui sait, ça se trouve, je vous mettrai en relation avec quelqu'un parce que je tends à développer mon réseau. C'est la fin. Merci pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine. C'était Dali. Ciao.